Le 19 avril, retrouvez-moi à Marseille pour une journée dédiée à la voix, orchestrée par la Société française de phoniatrie et laryngologie. Au programme, des tables rondes animées par des experts, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des phoniatres, des professeurs de chant, des coachs vocaux, des ingénieurs, des ORL et des chercheurs au CNRS. Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la célébration de la voix dans toute sa diversité. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de phoniatrie-du-8 Marseille.
Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocale et formatrice. En 3 albums, Norik est devenue l'une des chanteuses emblématiques de la culture tzigane et roumaine. Depuis 15 ans, sa voix envoûtante et puissante résonne sur les scènes européennes, aux côtés des plus grands musiciens de jazz manouche. Dans ce premier épisode, elle nous raconte ses cours de technique vocale, la respiration, la détente nécessaire pour produire le son, la recherche des vibrations et son apprentissage de la musique du monde. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Norik.
Bonjour Norik.
Bonjour.
Je voulais te demander à quel moment tu as eu envie de chanter. Qu'est-ce qui a fait que tu ailles vers ce répertoire de musique du monde?
Alors ça s'est fait en même temps, c'est assez gracieux comme rencontre. Je souhaitais prendre des cours de chant et je ne savais pas avec qui et je ne savais pas comment. Une amie m'a donné le numéro de téléphone de sa prof de chant, c'était je crois en 1999, ça remonte à très longtemps. Et donc j'ai appelé ce professeur de chant qui s'appelle Martina Catella.
Ah oui, l'association des Globetrotters.
Voilà, c'est ça. Et donc, je lui ai passé un coup de fil. Elle m'a rappelé quelques semaines plus tard. On a beaucoup discuté, on s'est rencontrés. Et c'est vrai que la première rencontre a été... J'ai eu l'impression que ça allait être elle et pas une autre. Comme elle est ethnomusicologue, toute son approche du chant, de la technique de chant, s'intéresser et s'orienter vers les musiques traditionnelles et du monde. Et en fait, je crois qu'au bout de quelques cours de chant, j'ai vu le film Le Temps des Gitans. Et j'avoue que je suis tombée complètement amoureuse de la chanson Ederlési. J'ai acheté le CD et je suis revenue vers ma prof en lui disant « C'est ça que je veux chanter, c'est cette chanson ». Donc on a commencé à travailler en parallèle à technique vocale parce que j'en avais pas... En fait, j'avais pas du tout de technique. Elle m'a donné pas mal de disques de musique tzigane et je me suis complètement immergée dans ce chant-là, quoi. Et donc, ça a commencé et ça a duré des années.
Ouais, c'est ton premier coup de cœur.
Oui, c'est un peu, j'avoue, c'est un peu cette chanson sur laquelle j'ai jeté mon dévolu et je me suis dit, je m'arrêterai pas tant que je saurais pas la chanter. C'était ambitieux, ça s'est pas fait tout de suite, mais non, mais je suis vraiment tombée amoureuse de cette chanson, ouais.
Au bout de combien de temps tu as commencé à être satisfaite de la façon dont tu l'as chantée?
J'ai envie de te dire que ça a pris des années. Et j'ai pris, je crois, des cours de chant pendant 3 ans. Il y a forcément des étapes dans la voix où on sait qu'on a franchi un palier. Quand j'écoute ma voix, même sur mon premier album Gadji, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus satisfaite de la manière dont je l'interprète parce que finalement, je la chante à chaque concert. Gadji, c'était vraiment le début. Donc, je crois que la voix évolue, s'améliore... En tout cas, est de plus en plus juste avec ce qu'on est au fil des années. Donc, si ça doit prendre 15 ans, ça prend 15 ans.
On va écouter la version qui date de 2008 de ton premier album, Gadji. Certains auditeurs t'ont peut-être entendu chanter Eberlesi dans The Voice saison 7 en 2018. Tu as fait cette émission alors que tu avais déjà une carrière de chanteuse confirmée derrière toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette expérience?
Alors écoute, je l'ai vécu en plusieurs épisodes, plusieurs palettes d'émotions. En fait, j'ai été contactée pour participer au casting, donc j'avoue que ma première réaction a été de dire non. Je prétendais que effectivement, j'avais peut-être plus l'âge de participer à Télécrochet, surtout qu'on m'avait déjà contacté quelques années auparavant, j'avais effectivement aussi refusé. Et puis, je me souviens que le directeur de casting avait été assez séduit par justement mon interprétation d'Eberlesi. Donc, j'ai passé le casting, j'ai proposé ce chant-là, puis d'autres. Les gens ne le savent pas, mais c'est un casting qui est assez long, c'est-à-dire qu'on est généralement contacté au printemps d'une année, on a la confirmation qu'on va pouvoir participer aux auditions à l'aveugle à l'automne. Donc, en fait, il se passe tout l'été, il se passe la rentrée. Pendant ce laps de temps, on réfléchit à la chanson. Si on passe le premier casting, à la chanson qu'on aimerait interpréter, on rencontre un coach vocal, ensuite on rencontre le chef d'orchestre, et ensuite on repasse encore un casting privé, évidemment, devant production. Et à ce moment-là, au bout d'un certain nombre de semaines, on sait si on pourra participer donc aux auditions à l'aveugle. Donc en fait, il s'est trouvé que j'ai fini par interpréter Eberlesi. C'était très étrange de chanter cette chanson devant autant de millions de téléspectateurs. C'est un processus qui est très long. On est très entouré pendant les mois où on participe à cette émission, mais on est tellement immergé là-dedans qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre qui existe en dehors de ça. On est très sollicité, on est très encadré. C'est une très grosse machine, une très grosse production. Quand on sort de l'émission, il faut retrouver la vie qu'on avait avant. Voilà. C'est ça qui est le plus perturbant, en fait. Tout le temps où on participe à ce jeu-là, on est 24 heures sur 24 dans cette émission. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est une expérience qui est absolument unique. Ce n'est pas du tout la même chose que d'être sur scène. Je crois que c'est la première chose que nous avait dit le producteur de l'émission. C'était pour les gens qui ont l'habitude de faire de la scène, parce qu'il y a des participants aussi qui n'en ont jamais fait, mais pour ceux qui ont l'habitude d'être sur scène, attendez-vous à ce que ce soit complètement différent. Effectivement, on débarque sur un plateau avec un public qui n'applaudit pas. Et puis, il faut présenter une chanson que sur un laps de temps très très court, il faut arriver à faire passer quelque chose. Donc,
c'est vraiment de la performance.
C'est de la performance. Oui, puis on est jugé, c'est un jeu. Et d'ailleurs, la production l'expliquait souvent, c'est que faut pas se remettre en question en tant que chanteur parce que on n'a pas passé la première étape ou la deuxième ou la troisième. Et c'est ce que disait, moi, je travaillais avec des coachs vocaux, donc qui ne sont pas les coachs qui passent devant les caméras. On travaille beaucoup, voilà. Mais même les coachs, que ce soit, je me souviens, Florent Pagny, a dit c'est très injuste. Il y a des gens qui chantent formidablement bien et qui vont pas passer l'émission, quoi.
Oui, après, c'est une vitrine. Est-ce que toi, tu es contente des retombées que ça a eu? Est-ce que tu conseillerais à d'autres personnes de le faire pour ça?
Je pense qu'il faut être un petit peu solide pour faire ce genre d'émission. Ou alors tellement jeune qu'on peut passer au travers des mailles du filet, mais psychologiquement, c'est pas si simple que ça. Parce que tout d'un coup, on a accès à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire des grands plateaux, de grandes productions, beaucoup de moyens sont mis à notre disposition, mais ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est pas la scène, c'est à part. Bien sûr, il y a des gens qui sont rompus à ce genre d'exercice, d'autres non. J'ai vu des candidats quitter l'émission en se disant « bon, c'est pas fini, on a autre chose à faire », et puis d'autres qui étaient complètement à genoux, quoi, parce que peut-être c'est trop d'émotions. D'un coup, c'est trop de choses, quoi. C'est assez fort, et ça, je crois que les gens qui ne participent pas à cette émission ne peuvent pas comprendre, c'est très fort. Ça prend plusieurs mois de notre vie, et peut-être qu'il ne faut pas se laisser complètement submerger par ça. Quand on quitte l'émission, ça ne veut pas dire que derrière, on n'a plus rien à faire. Donc, je pense que je ne conseillerais pas forcément à des gens trop jeunes, trop fragiles, de participer à l'émission. Il faut être bien entouré, et puis il faut comprendre que ce n'est qu'un jeu. Et c'est ce que disait le présentateur de l'émission, Nikos Aliagas, c'est un jeu. On ne joue pas sa vie, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que parfois on a l'impression qu'on joue sa vie sur ce jeu-là. Ça peut être un tremplin, comme ça peut ne pas l'être. En ce qui me concerne, ça n'a pas du tout été un tremplin. Mais c'est pas grave, j'ai quand même vécu une expérience unique et c'est vrai que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc je regrette pas de l'avoir fait. Mais je dois dire que les quelques mois qui suivent la fin de l'émission, en tout cas la fin de ma participation, ont été un petit peu difficiles parce qu'il faut se retrouver dans la vie réelle après ça.
Comme tu as commencé la technique vocale avec une prof de chant ethnomusicologue, est-ce que vous avez travaillé d'une façon particulière la technique vocale en faisant des intervalles, des gammes ? spécifique à la musique tzigane et balkanique. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as travaillé ta voix ?
On a un petit peu travaillé des techniques vocales. On n'a pas travaillé, je dirais, des gammes en particulier, mais travaillé les coups de glotte, travaillé la projection, travaillé un chant selon s'il est plutôt intérieur ou au contraire, il est adressé à la personne qui est la plus loin possible de soi.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué quand tu as commencé ce travail pour devenir chanteuse ? Conseil que tu donnerais ?
Non, la première chose que j'ai appris et qui m'avait énormément étonnée, c'est que ma prof m'avait dit comme ça, très spontanément, prends de l'air, prends une inspiration avant de chanter. Évidemment, la première chose qu'on fait en général, c'est on essaye de prendre un maximum d'air. Et là, elle me dit, là tu chantes quoi ? Je dis, bah rien du tout, j'ai pris trop d'air, tout est bloqué. Et elle me disait que l'air dont on a besoin pour émettre un son pour chanter n'est pas plus que celui qu'on prend pour bâiller. Mmh. Et effectivement, quand on bâille, on a l'impression qu'on prend des tonnes d'air et en fait, on en prend très peu. Et ça, c'était une chose qui... Enfin, c'était comme une découverte. Et effectivement, l'inspiration avant de chanter, c'est pas prendre 3 tonnes d'air.
Ouais, c'est l'erreur que font tous les débutants, ils en prennent beaucoup, beaucoup trop.
Bah, c'est ça. Oui. Et après, tout est bloqué, on peut plus rien faire. Donc, tout ce que j'ai appris, c'est qu'on peut pas chanter avec un corps qui est complètement crispé, complètement tendu. Donc, peut-être, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'essayer de détendre son corps, d'essayer d'aligner sa colonne d'air, donc de pas avoir le cou complètement tordu.
Oui, tout le corps doit être aligné, c'est très important. Je vois avec mes élèves qui débutent, ils ont tendance dans l'aigu à lever la tête ou à l'avancer, dans le grave à baisser la tête et à garder la même posture un peu désaxée longtemps. Il faut prendre conscience de son corps comme instrument et ne serait-ce que les mains sur soi ou sur le corps de son coach vocal si on en a un. Et voilà, de toucher, de mettre les mains autour de sa taille pour sentir ce qu'il se passe et sentir l'ouverture quand on prend l'air un peu comme un accordéon. Comment est-ce que tu travaillais tout ça ?
Oui, des exercices pour détendre les intercostaux, mais ça évidemment je peux pas te le montrer. Des exercices de respiration, d'étirement. On commençait pas à mettre la voix tant que le corps n'était pas à disposition pour ça.
Oui, puisque c'est le corps qui fait la voix, c'est le souffle.
Complètement. Ce qui était aussi intéressant, c'est de pas forcément travailler en cours particulier, mais quand tu travailles avec d'autres élèves, effectivement, on était invité à mettre les mains sur les intercostaux des autres. De toute façon, il faut toucher son corps. Effectivement, voir à quel moment, ce que ça implique de prendre de l'air dans le corps, quelles sont les parties de notre corps qui sont réquisitionnées à quel moment. Prendre de l'air, pousser au niveau des intercostaux, en fait, ça c'est un peu ce qu'on appelle la matrice, en fait. Dans quel ordre on procède pour émettre un son ? Et souvent, elle me disait, au moment où l'inspiration est prise, le son est déjà fait, même si on l'entend pas.
On peut le prendre de tellement de façons différentes.
Ça peut être dans le bas du dos, au niveau des côtes flottantes, ou même du petit pectoral. Depuis plusieurs années, j'ai voulu continuer de me former sur la physiologie du chanteur avec une kiné des chanteurs et des musiciens qui s'appelle Fabienne Poulet-Schneider.
Et elle me montre souvent comment on respire plutôt un trompettiste, comment on respire plutôt un flûtiste. C'est fou. Toutes ces façons de respirer qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais juste
qui s'adaptent avec le son que l'on veut produire.
Oui. Oui, et puis on retrouve beaucoup de similitudes. Effectivement, moi j'ai travaillé avec une compagnie de danse pendant plusieurs années et je retrouvais beaucoup de similitudes dans ne serait-ce que l'ancrage au sol qui est nécessaire au chant, qui est nécessaire à la danse, qui est nécessaire aux arts martiaux et peut-être les parties du corps qui doivent être au contraire plus légères. Et c'est pour ça que ma prof nous disait « vous êtes un arbre enraciné au sol ».
Avec les feuilles au vent.
Et... Exactement, où elle nous disait « vous êtes une licorne à gros cul ». Alors moi, ça me faisait marrer. Mais en fait, c'était ça, c'est-à-dire que le gros cul, c'est l'ancrage au sol.
Ouais.
Et la pointe de la corne de la licorne, c'est là où on projette le son, en fait. Le son, elle nous apprenait à ne jamais l'imaginer ni le construire en dessous des yeux.
D'accord, donc pas du tout au niveau des pommettes, ni près du nez.
Si, les pommettes, oui. Mais les pommettes sont les résonateurs. Mais d'essayer de ne pas le créer ou l'imaginer en dessous d'un point qu'on a entre les deux yeux. Tout simplement pour ne pas écraser, pour ne pas faire le son.
Avec le larynx écrasé vers le bas. Et...
Exactement, ou dans la gorge. Enfin, de toujours imaginer le son le plus haut possible. Mais tout ça, c'est virtuel, hein, c'est dans l'imaginaire. Et ensuite, les résonateurs font leur travail.
Thank you.
Coaching, quand j'ai des personnes qui n'ont pas pris de cours de chant auparavant, je leur demande toujours si en chantant, ils ont déjà ressenti des vibrations dans leur visage ou dans leur tête, et certains spontanément avaient déjà un placement du son qui permettait d'avoir cette résonance-là naturellement, tandis que d'autres, pas du tout, et c'est dans la gorge, et quand on commence le travail sur les résonateurs, certains ressentent très vite, et d'autres sont vraiment plus sceptiques, et dans un premier temps, c'est vraiment par l'imaginaire que ça se passe, et puis que ça peut se créer dans le corps. Et pour toi, personnellement, ça s'est passé comment ?
Oui, il faut avoir beaucoup d'images, effectivement. Parce que c'est pas toujours facile de comprendre finalement qu'est-ce qui fait le son, ce sont les résonateurs. Les résonateurs que tu as dans ton crâne, dans ta boîte crânienne. Donc en fait, toutes les parois osseuses sont des résonateurs. Donc il y en a sous les yeux, il y en a au-dessus de la tête, il y en a derrière. Donc en fait, on a beaucoup travaillé à trouver ces résonateurs. On est soi-même son propre instrument de musique et d'arriver à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son propre corps quand on chante. Quels sont les résonateurs? Pourquoi on en utilise certains plutôt que d'autres? Après, ça dépend aussi quel timbre on veut développer. Donc en fait, ça a été un travail sur plusieurs années. pour sentir les parties de notre corps qui vibrent. Au début, ça vibre pas. Au début, on sent rien. Moi, je me suis acharnée. Il y a des moments, j'y croyais plus, en fait. Je me disais, mais de quoi elle parle? Ça vibre pas. Puis, à un moment donné, on sait pas ce qui se passe. Tiens, on commence à sentir des choses. C'est vrai qu'il faut apprendre à sentir son propre corps. Et donc, elle nous donnait énormément d'images à disposition, qui étaient toujours très justes. Et puis, bah, avec ça, on se débrouille. On se débrouille. Il y a des gens qui ont des déclics très, très rapides au niveau de la voix et du corps. Et puis, d'autres, ça va être beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que le chant, du coup, ça libère beaucoup de choses dans le corps, c'est presque de la médecine, quoi.
Oui, c'est vrai que pour la douleur, ça crée des endorphines. Pendant plusieurs années, je donnais des ateliers de chant pour les personnes avec des troubles du langage ou un handicap moteur après un AVC ou après un accident de la route. Et le chant leur faisait du bien, c'était complémentaire à leur réhabilitation. Et je l'ai vécu de l'autre côté cette année après avoir été renversée par une voiture. J'étais en internat en centre de rééducation, il y avait un piano dans la pièce commune et le soir, je chantais. Même si c'était à ce moment-là un filet de voix, je n'avais plus de souffle, je n'avais plus aucune puissance, c'était vraiment étrange. Toi, Nourik, tu as une voix douce, aérienne, avec une palette de nuances et en même temps, tu as beaucoup de puissance. Est-ce que ta voix était déjà puissante ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure des cours de chant?
C'est ce que j'ai appris avec ma prof et puis c'est assez jouissif en fait d'envoyer beaucoup de puissance, condition que ce soit justifié évidemment dans la chanson. L'idée, c'est pas de crier pour crier, c'est d'arriver à trouver quelque chose de juste entre la retenue et... Mais ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour le sport, quand on voit des boxeurs boxer, quand on voit des danseurs. Il y a toujours une relation entre quelque chose de détendu et en même temps qui peut être aussi de très puissant. C'est comme l'écriture, c'est les pleins et les déliés. Imaginez le chant comme une calligraphie. Une calligraphie imaginée qu'on pouvait dessiner dans l'air avec sa main. J'ai envie que la voix soit plus forte. Je le fais, quoi, mais je sais pas, peut-être que je manquerai un peu plus au sol à ce moment-là. Peut-être que je pousse un petit peu plus avec le bas du corps pour soutenir le son, mais je me pose pas de questions.
Alors j'ai adoré ton dernier album. Il est sorti au moment du confinement, donc ça a été vraiment l'album de mon confinement, notamment la première chanson qui est sortie...
Camaraula.
Oui. Il y a toute une partie ska, à laquelle on s'attend pas du tout, avec des glissando à la fin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette chanson et la façon dont vous l'avez arrangée?
Alors, pour commencer, c'est cette chanson qui s'appelle Camaraula. C'est une chanson tzigane que j'avais découvert dans le film de Tony Gatliff, Gadjo Dilo. Ça fait à peu près 15 ans que je la chante sur scène. D'ailleurs, c'était le propos de cet album, c'était de reprendre des chansons que j'interprète depuis très longtemps, parfois même depuis le début de ma carrière, et de les amener vraiment ailleurs, en tout cas assez librement, en tenant compte de toutes les influences musicales que j'apprécie. Et finalement, le clip, c'est créé autour de quelques mots de cette chanson. C'est un texte qui parlerait d'une dispute entre un homme et une femme et il finirait par l'emmener dans la forêt et la laisser seule dans la forêt et de lui dire « je te laisse au loup ».
Charmant.
Voilà, donc moi je suis partie de cette histoire de loup et j'aimais l'idée aussi d'un petit chaperon rouge qui finalement les rôles s'inverseraient et qui mettrait tous ces loups à terre. Voilà, c'était au départ une idée avec des images très esthétiques. Là, je m'inspire de scat hongrois que j'ai beaucoup entendu dans des musiques hongroises. Je suis partie avec une jeune chanteuse tzigane, franco-tzigane, et j'étais invitée dans la maison du musicien qui avait fondé le groupe Endodrome, qui m'a emmenée dans cette maison. On est resté, je crois, 3 semaines. C'était en 2003, l'été 2003. J'étais avec des musiciens moldaves, j'étais avec cette jeune tzigane qui, effectivement, on s'amusait. Elle m'a appris à jouer des cuillères, à essayer de jouer du poêlé, à essayer de faire des pas de danse. En fait, en général, ils font ces scats en même temps qu'ils jouent du poêlé et des cuillères. C'est vraiment, c'est percussif et puis on rentre dans une espèce de transe en fait. C'est-à-dire que parfois les skates ralentissent, puis ils accélèrent. Mais c'est presque des jeux en fait. Mais je t'enverrai quelque chose comme ça, tu entendras.
Ah ouais, je veux bien. Ça ressemble pas du tout au skate de jazz que moi j'ai pu travailler.
Ça n'a rien à voir. Moi j'ai découvert ça avec mon ami tzigane qui m'avait un peu appris à en faire. Et puis j'en ai écouté pas mal en Hongrie.
Est-ce que tu voudrais bien nous faire un petit extrait?
Voilà, j'en ferai pas plus.
Super. Ben, merci beaucoup.
Évidemment, je les fais pas du tout comme les feraient les chanteurs hongrois. Peut-être que je les ferais rire d'ailleurs, mais en fait, je sais pas, à un moment donné, j'ai décidé de faire ça dans cette chanson, je sais pas pourquoi, sur scène, et puis finalement, on l'a gardé et je me suis amusée dessus, enfin, à l'enregistrement, quoi.
Le clip est très beau.
Oui. C'est un clip qui est réalisé par un très vieil ami qui s'appelle Kevin Diana et qui fait de la réalisation depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est lui qui a amené tout ce scénario. Moi, j'avais simplement quelques idées, notamment du chaperon rouge, des loups. J'avais envie d'utiliser ces masques que je trouvais assez intéressants parce qu'ils sont des masques de papier. Et c'est lui qui a imaginé après toute l'histoire. Et sur une chanson qui dure plus de 5 minutes, c'était un vrai challenge. Ça s'est fait avec beaucoup d'amusement entre amis. Et j'avoue que j'étais très, très heureuse du résultat.
Mal zas bariz avala kanawe.
dans la musique traditionnelle, il y a vraiment un côté transmission. Tu n'es pas roumaine, mais la musique qu'on a écoutée étant plus jeune, hein, nous nourrit d'une certaine façon. Moi, par exemple, je suis corse, j'ai grandi là-bas, je chante en corse. Je pense avoir été influencée par la musique que j'ai entendue plus jeune chez moi, qui n'était pas du chant polyphonique. Et ça se ressent certainement dans ma façon de chanter. Qu'est-ce qu'il y avait comme musique chez toi ?
Mon père était professeur de guitare classique. Il a aussi joué du luth, de la viole de gambe, donc j'écoutais pas mal de musique baroque, de musique classique, mais aussi tout ce que mes parents écoutaient. Donc j'écoutais les vieux vinyles, j'écoutais beaucoup de Janis Joplin, Marianne Faithfull, des choses comme ça. Puis après, ce qu'on peut écouter quand on est enfant et adolescent, de ce qui se fait aussi sur le moment. Donc oui, la musique était présente, ça c'est sûr.
Est-ce que tu aimais déjà chanter quand tu étais enfant et adolescente ?
Je crois que j'ai toujours aimé chanter. Je chantais à l'école, je faisais partie d'une chorale quand j'étais au collège, j'étudiais le piano et le chant n'est jamais vraiment complètement parti, mais je savais pas qu'à un moment donné ça deviendrait aussi essentiel, important et que j'en ferais mon métier.
D'accord, je savais pas du tout pour le piano, c'est vrai que sur scène on ne te voit pas jouer du piano.
Ah, il vaut mieux pas. C'était il y a très longtemps.
D'accord. Tu écoutais de la musique folk. Dans ton dernier album, il y a une très belle reprise d'une chanson de Leonard Cohen.
C'est vraiment lié. D'abord, j'écoute Leonard Cohen depuis toujours, je crois. J'étais tombée sur une interview de lui où il parle de ce que raconte cette chanson. Donc, je ne la connaissais pas du tout avant. Et quand il a été question de faire cet album, évidemment, pour moi, c'était un album qui devait être absolument libre de tout. C'est-à-dire tant par le réarrangement des chansons, par le choix des chansons. J'avais envie de m'interdire, ne rien m'interdire, justement. Et The Gypsy's Wife, je me suis dit, mais oui, pourquoi ne pas chanter cette chanson qui parle de sa femme tzigane. Le texte est magnifique, compte la fin d'un couple. Alors évidemment, avec tout le mysticisme et l'imaginaire de Leonard Cohen, et qui, je trouve, va très bien avec la musique tzigane. Ça me faisait penser au temps des gitans, à cette espèce de voile qui s'envole, et la chanson parle du voile de mariée. Et j'avais pas envie de faire un disque de musique tzigane, j'avais envie de reprendre des chansons que j'aime, du répertoire tzigane ou roumain, parce que c'est un des répertoires que je pratique le plus, entre guillemets, mais l'idée c'était de chanter ce que j'avais envie de chanter et justement de faire le lien avec une chanson française si j'avais envie, si selon moi elle rentrait en fait dans cette histoire-là. Cet album c'est aussi une histoire, quoi.
En lien avec la musique baroque, tu es en ce moment même récitante. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu abordes les textes ?
Oui, parce que c'est un projet sur lequel je travaille actuellement, donc ça fait vraiment partie de mon actualité. En fait, on m'a proposé de lire des textes poétiques sur un projet de musique baroque et contemporaine, des textes qui parlent de l'origine des larmes. Ce sont des textes avec une certaine forme poétique, mais j'ai travaillé avec un metteur en scène, mais je n'ai pas travaillé comme une comédienne, parce que d'abord, je ne suis pas comédienne. Je n'ai pas travaillé non plus comme une chanteuse, parce que, en fait, lire un texte, dire un texte, c'est aussi proposer une musicalité dans la manière de dire les phrases, sauf que là, en plus, ce sont des textes en français, et moi, en général, je chante très peu en français, donc j'aborde pas du tout le chant et les chansons de la même manière, parce que les mots, à un moment donné, même si je comprends ce que je chante en roumain ou en tzigane, les mots vont m'échapper, alors qu'en français, il y a aucun mot qui peut nous échapper. Chaque mot est compris, chaque mot est entendu. L'exercice, là, c'était d'arriver à habiter ces textes sans peut-être forcer une certaine interprétation. Donc je les ai lus avec ce que j'étais, et puis je vois qu'au fur et à mesure des représentations, les textes, je les comprends au fur et à mesure, autrement, mieux peut-être. Mais effectivement, je sais que Gérard Depardieu dit que lui, quand il dit un texte, il l'aborde comme de la musique. C'est ce que j'essaye de faire. Alors évidemment, je suis pas Gérard Depardieu, mais je pense souvent à ce qu'il dit. J'essaye d'être dans la musique des mots, et surtout d'être dans ce que je raconte. Les premières interprétations, et c'est vrai qu'on a eu pas mal de résidences de travail cet été, je vois que les textes sont, en tout cas ma manière de les aborder, de plus en plus libre. Là, j'étais vraiment au départ de ce travail-là, mais je dois dire que j'aime beaucoup dire des textes.
Pour le chant traditionnel, tu as essayé de coller à une certaine tradition vocale tzigane et roumaine, à t'identifier à des artistes ou à une artiste en particulier. Où est-ce que tu as chanté d'emblée avec tes propres influences, ta propre personnalité?
J'ai pas grandi dans la culture balkanique, on m'a pas transmis réellement, à part le travail que j'ai fait avec ma prof de chant et après le fait d'avoir travaillé avec des musiciens tziganes, roumains, moldaves. Mais j'ai mis du temps à comprendre qu'il n'y avait pas une tradition vocale. Déjà, la musique tzigane, ça couvre des pays différents. On ne chante pas la même musique, entre guillemets, tzigane en Hongrie qu'en Roumanie, ou qu'en Serbie, ou qu'en Bulgarie, par exemple. Les ornements sont différents, les chansons sont interprétées de manière différente. En fait, quand je suis allée voir ma prof de chant, je lui ai dit que je voulais chanter Derlezi, elle m'a proposé une autre version qui était celle de Bratsch et interprétée par la chanteuse Mitsu, qui elle donc est une chanteuse tzigane hongroise, qui avait un timbre très très particulier, très nasal, avec une voix assez aiguë en fait. Elle a vraiment un timbre qui est très très particulier, on entend les racines indiennes dans sa voix, donc c'est une voix qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle est très 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 particulière. Évidemment, moi je suis tombée complètement amoureuse de cette voix, donc en fait j'ai chanté en imitant. Et je me souviens que ma prof de chant me disait « de toute façon on imite ». Pour apprendre, on imite.
Oui, c'est ce que me disait mon prof de chant aussi au conservatoire. Il me disait « aller à l'opéra, imiter ».
Oui, c'est ça. Donc en fait, j'étais complètement déculpabilisée de ça. Donc j'imitais. Donc effectivement, il y a eu un temps où, quand on m'entendait chanter, on me disait « tiens, c'est Mitsu ». C'est vrai, ma voix était complètement calquée sur la sienne. Mais en fait, c'était obligé de passer par là. Et c'est au fil des années, en fait, peut-être en écoutant moins, en écoutant d'autres choses, je me suis un peu plus réappropriée, ma propre voix. Mais ça s'est fait au fil des années. Et puis en écoutant des tas de chanteuses tziganes et pas mal des voix de Roumanie, puis parce que les chansons étaient en roumain et que le roumain était une langue qui me plaisait beaucoup à chanter. Et puis après, j'ai rencontré pas mal de musiciens qui m'ont prêté des disques, donc j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on se rend compte que la voix de Gaby Lunca n'est pas du tout la même voix que celle de Romy Capucci à nous, ni celle de Maria Tenas. Donc il y a des voix qui sont très terriennes, des voix qui sont beaucoup plus lyriques, beaucoup plus légères. Donc en fait, après on peut aller se balader dans tout le répertoire qui est absolument immense. Et c'est là où à un moment donné, on laisse un petit peu la voix se construire avec tout ce qu'on écoute. Et puis effectivement, il me semble que ma voix aujourd'hui est plus juste avec ma voix chantée, avec ma voix, et plus en lien avec ma voix parlée qu'elle ne l'était au tout début de ma carrière.
Après, c'est qu'avec le temps aussi, forcément, on se découvre en tant qu'être humain et puis on découvre sa voix, ça va avec.
On entend comme une technique de chant tyrolien. Dans les notes que tu chantes, ça passe très vite. C'est difficile de déterminer la hauteur des notes que tu fais, ça crée un genre de décrochement entre les deux notes. Peux-tu nous expliquer comment tu arrives à produire cela ?
Je me pose plus toutes ces questions. Non, c'est vrai, c'est fou. J'arrive presque plus à expliquer. Je n'intellectualise plus du tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas prof de chant, parce que je suis incapable de transmettre en fait ce que moi-même je fabrique avec mon corps avant de chanter. C'est pas quelque chose. Je pense que je le contrôle quelque part, mais je saurais même pas te dire comment ça se passe. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui se mettrait à hurler, ou quand quelqu'un, tu sais, parle et puis se met à pleurer. Tout d'un coup, la voix elle change. La voix elle devient. Elle est moins ancrée. Il y a quelque chose qui se décroche, effectivement, mais je saurais pas. C'est pas quelque chose que j'ai forcément cherché à faire, tu vois.
D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des ornements. Ça demande de l'agilité, une souplesse des cordes vocales. C'est assez proche de la musique orientale. Comment as-tu travaillé ?
Par rapport à la musique et aux gammes, en fait, on retrouve pas mal de gammes orientales dans la musique tzigane, mais tout simplement parce que les tziganes aient traversé autant de cultures et de pays différents. En fait, les musiques ont emprunté au répertoire des pays qu'ils ont traversés. Donc forcément, on retrouve évidemment la musique orientale. J'ai travaillé quelques gammes orientales, mais j'ai surtout, en fait, j'écoutais les chansons en boucle. Écoute, tu sais, quand tu reprends une chanson, tu répètes en boucle, t'essayes de... Écoute, je crois que le logiciel que j'ai le plus utilisé à un moment, c'était Slowdowner. Je rentrais la chanson et je la ralentissais au maximum pour comprendre, parce que parfois les ornements sont très rapides, pour comprendre dans quel ordre se faisaient les notes se chantaient pour essayer de faire l'ornement. Et j'ai essayé sur des chants bulgares, parce que là, c'est une autre manière d'ornementer et j'avoue que c'était assez difficile pour moi. Mais en fait, tu écoutes, tu reproduis ce que tu écoutes jusqu'à ce que tu aies l'impression que ça y ressemble à peu près, quoi.
D'accord, donc d'abord au ralenti et puis petit à petit, tu as accéléré et...
Voilà, mais je sais pas si c'est une bonne méthode.
Oui, oui, non, c'est une très très bonne méthode.
Moi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal. Mais de toute façon, quand tu veux travailler des ornements, les ornements, ce sont des notes. Donc, il faut savoir les notes que tu fais. Et effectivement, comme l'ornement, c'est une succession de notes très rapides, si tu les ralentis, tu peux entendre. De toute façon, ton ornement, même quand tu travailles un instrument de musique, tu le travailles d'abord lentement, quoi.
Est-ce que tu pourrais faire un petit extrait ou décomposer pour expliquer comment tu fais ?
Tutti frutti tequilas, tas. Voilà. Tu vois, à peu près. Mais je fais pas toujours les mêmes ornements, tu vois. C'est au fur et à mesure que tu interprètes une chanson, tu mets des ornements au milieu d'un mot, à la fin d'un mot. Tu vois, tu peux chanter de manière différente. Tu peux faire tutti frutti tequilas, tutti frutti tequilas. Tu vois, tu peux vraiment mettre l'ornement sur des voyelles différentes, en fait. Tutti frutti, tu vois, t'es pas obligé. C'est ça qui est rigolo, en fait, aussi dans la musique. C'est de pas chanter tout le temps de la même manière, quoi. De mettre un peu de liberté là-dedans, à condition de, pour te dire que ça marche pas tout le temps, c'est que j'ai repris une chanson serbe il y a quelques temps, et donc je travaille avec un accordéoniste qui est Ivica Bogdanic, qui est franco-serbe. Et je me souviens de la phrase, attends, c'est... Voilà, je faisais ça, prodamo, ou c'est le contraire, attends, ah non, je faisais aideiano aide ducho cuchuda prodamo, et là il me disait mais prodamo ça ne veut rien dire, si tu mets l'accent sur le o, ce mot ne veut rien dire, on ne le comprend pas, et donc il fallait faire prodamo. C'est une chanson qu'on m'avait proposé d'enregistrer avec un autre groupe, et je m'étais basée sur une version de Natasha Atlas, parce que c'était la bonne tonalité, puis je trouvais que c'était assez clair au niveau des ornements. Donc elle le chantait comme ça. Mais personne lui a dit que ça ne se chantait pas comme ça. Donc j'ai commencé à la chanter comme ça, et j'ai même un ami serbe qui m'a dit « Mais non, mais tu peux pas chanter ça comme ça. Tu peux pas mettre l'accent à la fin du mot. Sur ce mot-là, ça ne fonctionne pas du tout. » Donc tu fais pas toujours les ornements non plus sur la syllabe que tu veux. En fait, il faut qu'il y ait un sens. Alors, parfois, peut-être que je me plante, quoi, tu vois, même en tzigane ou en roumain. D'ailleurs, souvent, je pose des questions, j'ai des amis tziganes, je leur demande si ça c'est juste ou ça n'est pas juste, quoi. Mais après, bon, on s'octroie quelques erreurs d'interprétation. À un moment donné, la musique, elle peut aussi permettre ça, tu vois. Voilà, bon après, des fois on se rend pas compte, je sais qu'en roumain, ils sont très à cheval sur les accents qu'il y a sur les voyelles, notamment le A. Il y a plusieurs A différents. Il y a le A sans accent, c'est A. Le A, je sais plus, avec un... Je sais plus si c'est un accent... Un accent circonflexe à l'envers, c'est E. Et l'accent circonflexe à l'endroit, c'est U. Donc, des fois, au sein d'un même mot, tu as les trois A. Et je sais que ça les amuse parce qu'ils considèrent que les étrangers ne prononcent jamais bien les A. Donc, je sais que je fais souvent attention à quel A je dois prononcer.
Ton deuxième album est principalement en français et ce sont tes compositions. À quel moment as-tu commencé à écrire ?
J'essayais d'écrire depuis quelques années, mais j'étais pas toujours satisfaite de ce que j'écrivais. Quand la question s'est posée de faire un deuxième album, j'avoue que j'avais envie de création originale. Sur le premier album, on avait travaillé et sur des poèmes tziganes qui avaient sur lesquels donc. Le même musicien, Sébastien Gignot, avait composé des musiques ou réarrangé des chansons traditionnelles. Puis sur ce deuxième album, je me disais, mais il manque quelque chose. J'ai besoin de parler de mon histoire, ou en tout cas de parler avec mes mots. Et évidemment, je ne pouvais pas écrire en roumain parce que je ne suis pas du tout roumaine. Donc forcément, j'ai écrit dans ma langue maternelle, c'est-à-dire en français.
Est-ce que tu peux nous parler de ta chanson « Les héroïnes » ?
Je me souviens d'une chanson d'un album qui s'appelle Cœur et qui faisait partie d'une trilogie de pièces de théâtre de Wajdi Mourad, si je dis pas de bêtises. Et j'avais acheté ce disque et dans ce disque, il y avait une chanson qui s'appelait Les Mouillages. Et dans Les Mouillages, il parle du héros. Je sais pas pourquoi, quand j'entendais, j'adorais cette chanson. Et cette chanson qui parlait de ce héros qui était parti si loin, je me suis mis à penser à Héroïne. Je sais pas pourquoi. Et en pensant aux héroïnes, je pensais aux héroïnes féminines qui avaient pu m'inspirer ou me toucher. Je pensais aussi à Ondine, je pensais à Ophélie, je pensais aux héroïnes des eaux. Ça me faisait penser aussi à cette chanson des mouillages. Donc j'ai commencé à écrire en fait cette chanson en parlant des héroïnes qui ont eu des fins un peu tragiques. Et je me suis dit, mais c'est quoi être une héroïne aujourd'hui ou même à une autre époque? Et qu'est-ce qui reste de ce qu'on appelle une héroïne? Et donc c'était un petit peu je suis partie de ce refrain. À quoi rêvent les héroïnes? Qu'est-ce qu'on fait qu'on devient une héroïne? Qui est une héroïne? Donc aussi bien dans la poésie que dans un combat personnel de femme. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et donc voilà, après c'est de la poésie.
C'est la fin de la première partie de l'épisode de Norik. La suite, mercredi prochain, vous pouvez suivre le podcast et retrouver les citations des invités sur mes réseaux sociaux. Si vous avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lacledelavoix.com. Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré. On se quitte sur la chanson Les Héroïnes dont elle vient de nous parler.
Étoiles. Par elles, À quoi rêvent les héroïnes, les voyageuses qui cheminent? Les continents au vent des routes. Que reste-t-il des héroïnes dans les valises clandestines qui volent en poudre au fond des soutes? Elles taillent leurs robes aux nuages et leurs semelles vagabondes. À quoi rêvent les héroïnes à l'ombre des arbres tangerines? Le voile glissait le long. Noyés dans des flots d'angora.